Bonjour à tous. Ce matin, on va lire dans 2 Timothée au chapitre 4, les versets 1 à 7. Et si vous voulez suivre dans les Bibles qui sont sur les bancs devant vous, c'est à la page 1356. Donc je répète, 2 Timothée chapitre 4, les versets 1 à 7, page 1356. C'est pourquoi je t'en supplie, devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne, prêche la parole. Insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. Réfute, reprend et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, accomplis la tâche d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi.
J'ai pas voulu plomber l'ambiance avec ce texte. C'est un exercice qui est un petit peu difficile. Entre hommage et oraison funèbre, c'est quelquefois un privilège un peu surréaliste d'assister à son oraison funèbre. C'est donné à peu de personnes. C'est vrai que c'est à la fois un immense privilège, un exercice difficile d'être chargé d'apporter la prédication à l'occasion de ce culte de reconnaissance pour le ministère de nos deux amis, je dis bien de nos deux amis Paul et Florence Appéret. Un immense privilège au regard d'un ministère d'une densité et d'une richesse dont seul le Seigneur peut en mesurer la qualité, la profondeur et l'influence. Un service qui s'est exprimé en tout premier lieu dans cette église, dans cette famille que vous avez et que vous aimez passionnément. Mais également dans les divers lieux dans lesquels vous êtes passés, lieux de formation et église, comme il a été évoqué tout à l'heure, ainsi que dans les vies individuelles d'hommes et de femmes qui vous a été donné de rencontrer. Si c'est un privilège, c'est aussi un exercice difficile, car chacun connaît la relation personnelle que nous entretenons ensemble depuis des dizaines d'années. Une amitié tout aussi unique qu'improbable. On nous appelle nos jumeaux, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup extérieurement de ressemblance. Je préfère parler de frères siamois, collés l'un à l'autre, inséparables. Et c'est vraiment une reconnaissance. Une amitié qu'aucun mot ne saurait résumer. Il me faut donc à la fois prendre de la distance, car ce que je souhaiterais, c'est apporter, ce que je souhaite apporter dans un premier lieu, de me conduire donc à l'adoration, à la reconnaissance de celui sans lequel aucune vocation, aucun service ne peut voir le jour. Et en même temps, je ne peux faire abstraction de tout ce qui me lie à ceux qui vous ont servi avec un dévouement rare. Le texte que j'ai choisi s'est imposé à moi très vite. Et nous l'avons lu, se trouve dans la deuxième lettre que Paul adresse à Timothée au chapitre 4, les versets 6 et 8. J'ai combattu le bon combat. Alors si ce texte s'est imposé à moi, son contexte me pose un problème que j'aimerais clarifier d'entrée. L'apôtre Paul est emprisonné, probablement à Rome. Il sait que contrairement aux emprisonnements qu'il a subis précédemment, il n'en ressortira pas vivant. Il envisage très clairement sa mort. Mon embarras, vous le comprenez, est lié donc au contexte de la lettre qui ne colle évidemment pas à celui de nos deux amis. Si Paul et Flo arrivent au bout d'une étape, il leur reste, contrairement à l'apôtre, de belles choses encore à vivre ici-bas. Si le ministère pastoral à la rue de Sèvres s'achève, leur service pour le Seigneur est loin d'être terminé. Chaque fin d'étape, quelle qu'elle soit, est l'occasion pour chacun d'entre nous de jeter un regard sur le chemin parcouru et de porter une appréciation personnelle sur notre parcours. J'imagine que tous deux, à l'approche de cette fin d'étape, vous vous êtes invités, vous êtes livrés à cet exercice. Peut-être de manière très informelle, au gré des moments où, te connaissant Paul avec une rigueur toute particulière, tu as sans doute consigné certains faits marquants de votre ministère, dans un journal peut-être. Je ne sais pas quel mot précis, quelle phrase vous avez choisi, ou vous choisiriez si vous deviez décrire votre ministère. Peut-être laissez-vous le soin à d'autres de résumer votre service. L'apôtre tire un bilan de son apostolat en une courte phrase que certains trouveront laconique, digne d'une épitaphe. « J'ai combattu le bon combat ». Étonnant, n'est-ce pas, pour l'homme qui a marqué de manière unique l'Église primitive. Compte tenu de son ministère immense, nous nous serions attendus à une longue liste de tâches accomplies, de services consentis, d'épreuves subies. Il aurait pu faire la liste des églises implantées par ses soins ou ses équipiers, indiquer le nombre de kilomètres parcourus ou le nombre d'hommes et de femmes qui se sont tournés vers le Seigneur grâce à son ministère, sans parler du nombre de serviteurs de Dieu formés par lui. Je pourrais sans doute, peut-être mieux que quiconque ici, mes chers amis, faire la liste des églises qui ont vu le jour grâce à votre ministère, ou d'églises qui ont tenu par votre ministère d'encouragement, ou encore de serviteurs durablement ragaillardis par vos encouragements, formés par un enseignement imprégné d'une vie de disciple authentique. L'apôtre Paul ne se lance pas dans une autobiographie, mais simplement dans un constat. J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Si l'apôtre Paul ne se lance pas dans une autobiographie, mais simplement dans un combat, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, c'est que là, pour lui, là est l'essentiel. Si l'apôtre qualifie de bon combat qu'il a mené, cela signifie qu'il en existe de mauvais, et donc que l'on peut se tromper de combat. La question que nous pose indirectement ce texte lorsque nous faisons le bilan d'une étape vécue avec le Seigneur est la suivante. Avez-vous combattu le bon combat? Ce combat n'est évidemment pas un djihad, comme nous le verrons. Il s'agit souvent d'un combat contre soi-même. Car c'est bien de soi qu'il faut parfois se méfier pour ne pas se tromper d'objectif, en se laissant emporter par un tempérament trop tourné sur nous-mêmes, sur nos intérêts, influencé par un tempérament trop tranché, une sensibilité trop vive. Il est si facile de faire, dans le service pour le Seigneur, de se tromper de bataille. J'aurais pu utiliser une autre analogie, une autre image que celle de Paul, que celle de l'apôtre Paul, que celle du combat. J'aurais pu vous dire, vous ne vous êtes pas trompé d'engagement d'équipe de football. L'objectif, PSG, pour sa gloire. J'aimerais, à la lecture globale de l'histoire de Paul, retenir quelques choix de combats décisifs dans lesquels il se serait perdu. Je ne peux pas faire le tour de tous ces choix fondamentaux. La liste serait trop longue et nous avons encore de belles choses à vivre dans cette journée. Si ces choix sont subjectifs, ils reposent quand même sur ce qui me semble être lié à des éléments importants de la vocation pastorale. Et je retiendrai 4 éléments que je vous invite à dérouler maintenant. Tout d'abord, renoncer à combattre pour soi-même pour se laisser saisir par l'appel du Seigneur. Formé par les grands maîtres philosophiques et religieux, l'apôtre était promis un avenir brillant. Ses maîtres voyaient en lui un futur Gamaliel. Il est donc assez facile d'imaginer la colère, la déception de ceux qui l'ont instruit, ainsi que celle de ses compagnons d'université, lorsqu'est parvenu, lorsque sont parvenus à leurs oreilles les nouvelles stupéfiantes de la conversion à Jésus-Christ de ce génie qu'était Saul de Tarse. Un curriculum vitae à vous couper le souffle. Et tout cela pour en arriver là, porteur d'un message invraisemblable. Lucide sur ses qualités humaines, l'apôtre dira « Si quelqu'un peut se confier en ce qui vient de l'homme, je le puis davantage. » Et dégrainer ce qui était considéré par les siens comme des avantages, ouvrant la voie à de belles perspectives. Une place au soleil garantie. Pourtant, l'appel clair du Seigneur sur le chemin de Damas n'a rien caché des difficultés et des souffrances qu'attendait l'apôtre. Mais malgré ces perspectives peu réjouissantes, Saul de Tarse a accepté de s'engager dans ce combat. Bien des étudiants brillants, promis à une carrière professionnelle lucrative, ont renoncé à cette voie toute tracée devant eux, jugeant l'appel du Seigneur supérieur à toute autre considération matérielle. L'histoire de l'Église est jalonnée de choix similaires. Vous avez rejoint, chers amis, cette longue liste de ceux qui ont su discerner parmi bien des combats le bon combat. Votre témoignage, ton témoignage, mon cher Paul, est à la fois une interpellation et un exemple pour tous ceux qui, réussissant dans les études, n'ont comme seul objectif faire carrière. Et si cet objectif que vous vous êtes fixé, certains d'entre vous peut-être, n'était pas le bon combat ? Et si le Seigneur avait permis ces brillantes études pour vous utiliser en vous confiant, en vous qualifiant peut-être totalement à son service et pourquoi pas par un ministère pastoral. Puisse le Seigneur vous conduire à vous interroger, puisse le Seigneur nous conduire à nous interroger et à poursuivre notre réflexion. L'apôtre Paul n'a pas tardé à vérifier la réalité des difficultés annoncées lors de son appel. Savait-il que les premières difficultés proviendraient justement de l'intérieur de l'Église elle-même, de ses propres frères et sœurs? C'est sans doute dans ce cadre-là que les choix de bataille à livrer sont les plus difficiles, car elles nous atteignent souvent plus profondément. L'apôtre Paul, lui aussi, a dû chercher sa place dans l'Église. Le grand apôtre a durant toute sa vie dû justifier de son ministère apostolique. Ce rang d'apôtre a été sans cesse contesté. Il aurait eu toutes les raisons de jeter l'éponge ou passer son temps à défendre, à prouver la réalité de son appel. Si parfois il s'est attardé à défendre son apostolat, ce n'était pas pour être mieux considéré. Ce n'était pas pour qu'on lui réserve la place d'honneur ou qu'on ajuste son salaire en fonction de son grade. Mais pour que l'on porte une attention toute particulière à l'extraordinaire bonne nouvelle du salut à tous, sans distinction de race. Il a été l'ambassadeur unique de ce message universel qu'il qualifie de mystère révélé. Ce message unique, révolutionnaire et source d'espérance pour tous les hommes, quelles que soient leurs conditions. Aux yeux de l'apôtre, ce message avait infiniment plus d'importance que sa propre personne. D'ailleurs, il prend soin d'accoler à sa fonction apostolique le titre de serviteur ou d'esclave de Jésus-Christ. Il aurait été facile pour l'apôtre Paul de se lancer dans un combat permanent pour faire prévaloir son statut, ses titres, ses droits. Mais il savait que ce combat-là, s'il satisfaisait son ego, n'aurait en rien servi son beau message dont il était le porteur privilégié. Servir et toujours servir. Telle était sa devise. La tentation est grande de croire que seul le titre fait autorité, qu'il suffit du diplôme des instituts de formation les plus prestigieux pour que l'on voie en nous le porte-parole de Dieu et que l'on vienne promptement s'asseoir à nos pieds dans une écoute béate, à l'image de Marie assise aux pieds de Jésus. Vous auriez pu, cher Paul et Flo, brandir vos diplômes. Et quel diplôme ! Imposez vos titres pastoraux, faire valoir les sacrifices consentis pour arriver jusqu'ici, toi Flo, quittant ton Canada, tes amis, ta famille, pour répondre à l'appel du Seigneur. Vous auriez pu passer votre temps à revendiquer. Vous avez su discerner la vanité d'un tel combat. Avec patience, persévérance, vous avez servi avec une fidélité et une abnégation qui m'a souvent servi d'exemple. Oubliant vos propres intérêts, vous vous êtes mis au service des uns et des autres. Qu'importe le titre, seul a compté pour vous le service du Maître et son Église. Vous laissez un bel exemple à tous ceux qui, dans votre Église ou ailleurs, trouvent qu'ils ne sont pas reconnus à leur juste valeur ou que leur service ne se voit pas suffisamment. Si nous devons nous encourager à reconnaître les dons des uns et des autres, à mettre en évidence tel service peu visible, souvenons-nous que là n'est pas l'essentiel. L'essentiel est d'être là où le Seigneur nous veut, que l'on soit bien considéré ou pas, bien vu ou caché. Votre Père céleste, qui est là dans le secret, le voit et vous le rendra. Bien sûr que le regard des frères et des sœurs a son importance, mais en aucun cas il doit nous enfermer et nous empêcher de servir, et de servir joyeusement. Le combat qu'il a mené encore est une proximité avec des personnes de tous horizons. S'approcher de chacun en leur accordant la même importance que celle que le Seigneur leur a accordée. En faisant cela, l'apôtre Paul fait voler en éclats les barrières que les hommes ont érigées entre eux. Hommes, femmes, libres, esclaves, juifs et non-juifs, tous ont à ses yeux la même valeur. Une valeur immense, évaluée à l'aune de la vie de Jésus-Christ, mort et ressuscité pour chacun d'entre eux, pour chacun d'entre nous, quel que soit notre statut. Pour l'apôtre, aucun chemin n'est trop long, aucun chemin n'est trop coûteux pour rejoindre l'homme égaré et lui ouvrir la voie de l'espérance. La distance de ce chemin ne se mesure pas seulement en kilomètres, bien qu'il en ait usé des sandales, mais elle se mesure en remise en question profonde, en un travail intérieur pour faire le tri entre l'essentiel et le secondaire. L'apôtre, élevé dans le courant le plus rigoriste de la religion juive, lui le lettré, parlant plus de langue qu'aucun de ceux qui se vantaient de parler en langue inconnue des hommes, se met à la portée de tous. Les académiciens d'Athènes, l'ancien légionnaire de Philippe, le gardien de prison, Lydie, la femme chef d'entreprise, ou bien l'esclave Onésime, pas très honnête, rencontré dans la prison de Rome, qu'il appellera avec affection « très cher frère » et dont il défendra la cause auprès de son maître Philémon. Je me suis fait tout à tous, afin de conduire au moins quelques-uns au salut, dit l'apôtre. Il ne s'agissait pas pour l'apôtre de jouer les caméléons et de changer de visage en fonction de son auditoire. Il s'agissait pour lui d'accorder le même intérêt à chacun, d'entrer dans les limites de l'autre pour y exprimer l'amour inconditionnel de son Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, un langage que les uns et les autres pouvaient comprendre. Cette attention à chacun, l'apôtre la puisait dans l'amour que le Christ lui-même lui avait manifesté. Il fallait pour cette démarche auprès de chacun une sensibilité façonnée par la contemplation de la grâce immense dont son Seigneur, dont Paul se savait le rebénéficiaire. L'image que l'on a souvent de l'apôtre est celle d'un psychorigide, misogyne, avec un caractère irascible. Je n'ai pas beaucoup vu de pasteurs pleurer pour ceux qui marchent en ennemis de la croix. J'en ai pas beaucoup vu. Ou vouloir encore, s'il ne pouvait être privé du salut, pour son peuple. Je n'ai pas beaucoup vu de pasteur avoir une telle compassion. Je n'ai pas vu beaucoup de pasteurs non plus connaître aussi bien ceux et celles qu'il a rencontrés et pouvoir attribuer à chacune de ces personnes une qualité particulière. L'apôtre Paul, oui. C'est aussi cela que l'on reconnaît le vrai pasteur, celui qui connaît chacune de ses brebis, qui les conduit avec une tendresse toute particulière. Comme souvent, vous savez, les leçons que l'on retient le mieux, ce ne sont pas celles que l'on nous donne, mais celles que l'on saisit dans l'exemple que l'on voit. C'est aussi auprès de toi, de vous, que s'est inspiré certains aspects de mon ministère. Si le costume cravate auquel tu es très attaché peut à prime abord avoir un effet réfrigérant, le sourire lumineux que tu poses sur chacun de tes frères et sœurs, ainsi que l'intérêt pour chacun, quel que soit son statut social, sa couleur de peau, son âge, réchauffe très vite le cœur de ceux et celles qui sont parfois intimidés par ton élégance. Savent-ils tout cela, que c'est pour eux que tu es tiré à quatre épingles, pour leur dire à ta manière tout le respect que tu as pour chacun d'entre eux, qu'il n'y a pour toi, pour vous, pas de petites gens, mais des personnes que le Seigneur aime, d'un amour inimaginable, tout comme il vous aime, vous. Se faire tout à tous, ce n'est pas nécessairement adopter les mêmes codes vestimentaires, le même langage. On produit parfois l'effet inverse. Mais c'est être capable de rejoindre l'autre dans sa vie, dans sa pensée, le comprendre et ainsi entrer en relation. Vous l'avez fait de manière admirable. Vous avez choisi ce combat-là. J'en suis, comme beaucoup ici, le témoin privilégié. Et puis, pour ceux qui ont suivi le quatrième point, un message exclusivement centré sur Jésus-Christ. J'ai gardé la foi, dit Paul. Si on comprend ça comme ça, on dit heureusement quand même. Il ne s'agit pas de la foi qui sauve, mais de la foi en tant que vérité, ou si vous préférez, de la bonne doctrine, la vérité de l'Évangile, telle qu'il lui a été révélée. C'est ce combat-là que Paul a mené. L'apôtre Paul ne s'est pas égaré dans les modes religieuses. Il met en garde Timothée sur ce point. Ni par les modes oratoires. On le lui reprochait, d'ailleurs, de ne pas avoir l'éloquence de certains. Pas ton cas, Paul. Il a été appelé apôtre pour proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et il ne se laissera pas décentrer du contenu de cet appel. À ceux qui le lui reprochaient, l'apôtre affirme « Je n'ai estimé devoir vous apporter autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Le Christ, tout le Christ, rien que le Christ. Dans ses lettres aux églises, tout est orienté, centré sur la personne de notre Sauveur et Seigneur. Il s'est attaché à dépeindre, en des termes émouvants, le visage de son Seigneur pour rappeler aux Philippiens l'humilité du Christ. Aux Éphésiens, la nouvelle société voulue par Dieu, fondée sur le Christ, et aux Romains, la justification par la foi en Christ, œuvre de la grâce surabondante de Dieu, apportée par l'œuvre du Fils à la croix. L'apôtre n'a pas perdu en cours de route le contenu de son message. Il a combattu le bon combat. Il ne l'a pas dénaturé en fonction des modes et de son auditoire. Les pièges ne manquait pas pourtant pour l'en détourner. Des auditoires réclamant le retour à des pratiques légalistes basées sur l'ancienne alliance, Paul le rappellera, l'œuvre de la grâce accomplie par le Christ rendant ces pratiques caduques. Des auditoires revendiquant une liberté des mœurs, Paul n'en appellera pas à un retour à la loi, mais à une compréhension plus authentique d'une grâce qui nous oblige. Qui n'a pas été marqué par le cœur de ton enseignement, construit pour faire ressortir la beauté du Christ, son œuvre de salut, offrant son plein pardon à ceux qui, repentant, viennent à lui. L'amour de Dieu, mais aussi ses exigences à l'égard de chacun, ont toujours été au cœur de tes prédications. Tu as prêché la grâce de Dieu sans jamais atténuer les exigences du Maître. Les exigences du Maître, tu les as aussi prêchées, n'ont jamais atténué la surabondance de sa grâce à l'égard de chacun. Tu as gardé la foi. Le Christ n'occupe pas seulement le cœur des prédications de l'apôtre, mais également sa propre personne, son propre cœur même. C'est ce qu'il affirme lorsqu'il écrit aux Philippiens « Ce que j'espère de toutes mes forces, c'est de n'avoir à rougir de rien, mais au contraire, maintenant comme toujours, de manifester en ma personne, avec une pleine assurance, la grandeur de Christ, soit par ma vie, soit par ma mort. » Avant que le Christ soit au cœur de sa prédication, au cœur de la prédication de l'apôtre, le Christ était au cœur de la vie de l'apôtre, ne se lassant jamais de le faire grandir en lui, jusqu'à lui laisser toute la place, et de pouvoir dire, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Son combat, son beau et bon combat, a été de faire connaître Christ comme lui l'a connu, de conduire les croyants à une fidélité dynamique qui se construit, s'affirme, se renforce au fur et à mesure de leur marche avec le Seigneur. Pour cela, il n'a rien épargné, ni ses forces, ni ses nuits, ni sa santé. Dans son combat, il a pris des coups, laissé des plumes. Mais sa certitude est que ce combat était le bon, le vrai, le beau et le seul qui vaille la peine d'être mené. Cher Paul et Flo, ce beau et bon combat, vous l'avez mené avec une fidélité et une loyauté qui m'émeut et m'encourage. Et j'ajouterai un talent qui m'émerveille. Il me laisse ainsi aussi songeur, tant je suis conscient en voyant votre témoignage, qu'il me reste encore bien du chemin à parcourir. Je ne suis pas naïf. Non, je ne suis pas naïf, Paul. Je le vois secouer la tête, là. Tout n'a pas été parfait, évidemment. Tout n'a pas été réussi. Et je veux connaître votre souci de la perfection. Vous n'avez besoin d'aucune aide pour noircir votre bilan avec des faux pas et des erreurs. Mais non. Vous n'avez à rougir de rien. Je connais votre amour pour le Seigneur. Il a illuminé votre ministère et la vie de ceux dont vous aviez la charge. Votre combat, comme celui de l'apôtre, comme sans doute de beaucoup d'entre nous ici, a été conduit, inspiré par un seul motif, l'amour pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et c'est à eux, nous dit l'apôtre, à ceux qui manifestent un tel amour, qui est réservé la couronne de justice. Alors nul doute qu'elle vous est déjà acquise. Et celle-ci, chers amis, vaut toutes les louanges humaines que l'on vous a accordées et que l'on vous accordera encore dans cette journée. Amen.